BFM Bourse, les pros des cryptos.
Et pour ces pros des cryptos, j'accueille en plateau Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice de blockchain et cryptos chez KPMG France. Vincent Gann, vous êtes donc avec nous, toujours en ligne, analyste technique. Merci d'être resté. Marché financier. Et Owen Simonin va nous rejoindre, fondateur, CEO de Just Mining. Voilà, d'un instant à l'autre, Owen sera avec nous. Bah, je vous garde, Vincent, pour ce premier point d'analyse technique d'ouverture de l'émission. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous mettriez en avant concernant les cours du Bitcoin, tout d'abord?
Alors, un certain nombre de choses. Sur la séance d'hier, on aurait pu s'attendre au pire. C'est-à-dire un désengagement massif du marché crypto, des contrats à terme crypto, des contrats à terme Bitcoin, un peu à l'image de ce que faisaient les indices boursiers qui, à un moment, cassaient profondément des supports. Et première chose qui m'a surpris, le cours du Bitcoin s'est mieux comporté que le marché actuel. C'est-à-dire qu'hier, même en séance, même au plus bas, il ne brisait pas le fameux support qui est préservé pour le moment de moyen terme, la zone des 30-35 000 $. C'est la zone pivot, c'est celle qui avait déjà tenu l'été dernier. Ça, c'est le premier enseignement relative étanchéité. Le deuxième aspect, la question en fait du moment, si vous voulez, concernant les contrats à terme crypto, qui sont le témoin de la professionnalisation de ce marché, c'est leur positionnement, actif risqué ou valeur refuge. C'est le débat du moment. Hier, je dirais que, les dernières 24 heures montrent que c'est une sorte d'entre-deux qui est en cours. Globalement, le marché crypto, le cours du Bitcoin reste corrélé à la dynamique des grands indices boursiers, mais même si hier les cryptos ne se sont pas envolés comme l'or et l'argent au plus haut de la séance. Moi, j'ai noté des informations intéressantes du côté des données de volume, d'engagement institutionnel. Il y a depuis 24 heures un net rebond à deux chiffres de pourcentage de l'engagement institutionnel sur les contrats futurs Bitcoin. Alors, diversification, aspect refuge ou actif risqué acheté à bon compte. Ce sont des données positives en fait depuis 24 heures et ça va dans le sens de la préservation de cette zone support des 30-35 000 $, zone technique au-dessus duquel le Bitcoin essaye de construire une configuration de renversement aussi.
38 850 $ le Bitcoin. Parlez-nous un petit peu, Vincent, de la place jouée cette semaine par la classe d'actifs des cryptos au cœur du conflit géopolitique du moment entre l'Ukraine et la Russie, et puis de l'aversion au risque général en bourse.
Oui, alors c'est justement ce dont je parlais à l'instant. Je pense que quelque chose est en train de se mettre en place. On ne pourra jamais affirmer, et d'ailleurs les chiffres le contestent, que le Bitcoin est une valeur refuge, c'est tout simplement faux. Si vous prenez les statistiques depuis 12 ans, c'est corrélé positivement au marché actions. Il y a des coefficients de corrélation linéaire d'environ 0,75 avec les grands indices boursiers. Mais depuis 24-48 heures, eh bien, il y a des capitaux qui sont revenus sur ces contrats à terme. Et je pense que c'est une façon de se diversifier, pas forcément actif refuge au même titre que l'or et l'argent, mais un entre-deux, un actif de diversification qui s'est professionnalisé parce que l'offre désormais de contrats d'options et de contrats à terme est disponible. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, je dirais, pour le positionnement du marché crypto au regard des dernières 48 heures.
Merci Vincent. Vincent Gann, Claire, on passe à vous. Claire Balva. Il est compliqué de passer à côté de ce qui se passe en Ukraine, même quand on évolue dans le monde des cryptos. Sur le marché des crypto-monnaies, baisse conséquente. Cependant, les crypto-monnaies devraient, semble-t-il, résister, servir de refuge. Comment est-ce que vous voyez les choses?
Alors moi, je dis pas que les crypto-monnaies servent de valeur refuge. Déjà, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Donc souvent, c'est vrai que quand on parle de valeur refuge, on fait plutôt référence à Bitcoin qu'à l'ensemble des crypto-monnaies.
Il y a Bitcoin et le reste.
Alors, je dirais pas qu'il y a Bitcoin et le reste, mais Bitcoin est quand même vraiment prépondérant.
J'ai peut-être des questions un peu simplistes, pardonnez-moi.
Non, mais vous faites bien. Mais effectivement, Bitcoin a une place qui est vraiment prépondérante, qui a un historique prépondérant. Il y a une masse monétaire qui est transparente, qui est limitée. Donc Bitcoin n'a pas tout à fait le même rôle que les autres crypto-monnaies. Maintenant, Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a observé récemment une corrélation avec les grands indices boursiers.
C'est le cas depuis le début de l'année.
Et on a vu là, voilà, dans cette crise ukrainienne, qu'effectivement, au moment de l'invasion, les marchés ont dévissé. Ça a été le cas aussi pour le cours du Bitcoin, comme pour le cours de la plupart des crypto-monnaies. En fait, c'est l'incertitude à ce moment-là qui joue, parce qu'effectivement, les investisseurs qui investissent dans Bitcoin ou dans d'autres types d'actifs à ce moment-là sont plutôt frileux. On a vu que c'était nettement remonté depuis, hein, que le cours du Bitcoin est remonté, comme d'ailleurs la plupart des autres marchés. J'ai regardé d'ailleurs ce matin le cours du Bitcoin par rapport au rouble russe et par rapport à la monnaie ukrainienne. C'est intéressant de voir que c'est remonté plus que quand on regarde le cours du Bitcoin par rapport à l'euro ou par rapport au dollar.
Maintenant, le rouble étant déjà très volatile.
Tout à fait.
On rajoute la volatilité des cryptos.
Tout à fait, mais on est toujours volatile par rapport à quelque chose.
Ça s'accentue. Ouais.
Donc nous, c'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder le ratio Bitcoin-dollar ou Bitcoin-euro. C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres pays avec d'autres monnaies. Maintenant, évidemment, que la priorité des Ukrainiens aujourd'hui, c'est pas d'acheter du Bitcoin, c'est plutôt de sauver leur vie.
Owen, on vous a retrouvé. Owen Simonin, bonjour.
Bonjour.
Fondateur, président de Just Mining, merci d'être avec nous dans les pros des cryptos. Vous attirez notre attention sur le fait qu'au Canada, les régulateurs mettent en garde les exchanges, hein, on les appelle comme ça, sur l'éducation au sujet des wallets non custodians, c'est-à-dire détenus par des particuliers directement. Cependant, en Ukraine, les banques limitent les retraits pour tous les particuliers. Les wallets non custodians seraient-ils une solution dans ce type de crise?
Alors, comme on en avait parlé la semaine dernière sur ce plateau, ce qui s'est passé, c'est qu'au Canada, les plateformes d'exchange ont rappelé sur les réseaux sociaux qu'en effet, si le gouvernement leur demandait de geler les avoirs d'un particulier, la plateforme serait obligée de s'exécuter. À ce moment-là, les plateformes d'exchange ont invité tous les utilisateurs de ces plateformes d'exchange de crypto-monnaie qui s'inquiètent pour la liquidité de leurs fonds et pour qui s'inquiètent par le fait que leurs fonds peuvent être gelés, à utiliser des wallets non-custodian, c'est-à-dire des wallets où on détient sa propre clé privée et où l'on détient finalement sa propre crypto-monnaie. Là, évidemment, en Ukraine, c'est pas la même situation. On n'est pas du tout dans le même cadre. En l'occurrence, il s'agit d'un cas de guerre, donc c'est une situation qui est évidemment exceptionnelle. Mais encore une fois, c'est le particulier qui est limité finalement, puisqu'il y a un plafond de retrait maximum. Les particuliers se voient limités et ne peuvent pas retirer tout l'argent qu'ils veulent. Alors, en l'occurrence, oui, si les gens détenaient une partie de leur valeur sur une clé privée dans la blockchain et détenaient une partie du coût de leurs accès, personne ne pourrait friser leurs fonds.
Il semble, Owen, on reste avec vous, hein. Il semble qu'il y ait un nouvel ordre au sein de la Fed américaine, interdire le trading des crypto-monnaies et autres actifs par des membres de la réserve fédérale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il y a derrière cela?
Alors, là, pour le coup, c'est la base même du délit d'initié. Le déni d'initié, qu'est-ce que c'est? C'est avoir une information en interne dans une entreprise, savoir par exemple que... Pardon? Voilà. Savoir qu'une entreprise va par exemple sortir un produit révolutionnaire en début de semaine et profiter de cette information que l'on a eue de par sa position au sein de cette entreprise ou au sein de son réseau pour acheter des actions d'une entreprise X ou Y avant que l'annonce soit rendue publique et avant que le cours s'apprécie. Eh bien, évidemment, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pareil. Si on a une information avant que le projet l'annonce officiellement, eh bien, ça peut naturellement faire monter les cours. Sauf que dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pas encore totalement régulé, c'est pas encore totalement cadré, et donc ce sont évidemment des pratiques qui sont bien plus présentes que dans la finance traditionnelle, bien que ça existe encore.
Claire Balva, ce genre de mesure est-elle justifiée selon vous?
Oui, c'est complètement logique. En fait, ça fait partie de ce mouvement qui vise à réglementer, réguler les crypto-monnaies comme des actifs classiques. C'est tout à fait normal, effectivement, que quand on travaille à la Fed et qu'on peut avoir des informations confidentielles un peu en avance par rapport à la plupart des gens, on ait des restrictions dans l'achat d'actifs comme dans l'achat de crypto-monnaies, puisque on a des indices sur ce qui va se passer sur le plan macroéconomique. Donc oui, pour moi, c'est tout à fait logique. Alors le petit problème qui peut se poser, c'est effectivement comment opérationnellement on va s'assurer que ces restrictions sont respectées. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des crypto-monnaies assez facilement, vous pouvez les détenir sur un wallet non custodial, donc c'est pas si simple d'aller s'assurer que cette réglementation est respectée.
Vincent Gann, vous qui êtes toujours en lien avec nous, vous avez un petit commentaire là-dessus, une petite remarque?
Oui, ça m'étonne pas. Aux États-Unis, ils n'ont jamais rigolé avec cet aspect-là, surtout avec le délit d'initié. Ils en envoient beaucoup de monde, enfin, ils envoient pas mal de monde en prison sur ces sujets-là. Donc, la haute finance américaine, sur le marché à action notamment, puisque c'était là où il y avait le plus de délits d'initié, la justice, quand elle vous tombe dessus, c'est terminé. Donc, bon, ça, c'est pas surprenant que la nouvelle classe d'actifs des cryptos, la jeune classe d'actifs des cryptos, bien intégrée par Wall Street, se mettent à suivre les mêmes règles.
On va parler de quelque chose d'un petit peu plus positif maintenant. Par exemple, l'aspect communautaire des crypto-monnaies. Aujourd'hui en bourse, hein, on ne parle pas de communauté, mais de traders. Claire, pourquoi l'aspect communautaire est-il si important dans les projets de crypto?
Je pense qu'il y a un gros effet de réseau. Il y a peut-être aussi le fait que c'est plus simple d'aller acheter des crypto-monnaies aujourd'hui que d'acheter des actions. Alors certains vous diront le contraire, mais c'est vrai la plupart des jeunes aujourd'hui ont l'impression que c'est effectivement plus facile.
C'est pas compliqué d'acheter des actions. Hein.
On voit cet effet de communauté, je trouve, particulièrement dans les groupes Telegram de projets crypto. On le voit aussi avec les airdrops. Vous savez, les airdrops, c'est quand un projet va distribuer gratuitement des tokens au début pour aller créer une communauté d'ambassadeurs. Et donc cette communauté, dès le début, effectivement, du projet, elle va être incitée à en faire la publicité. Et donc on va aligner les intérêts, je dirais, très rapidement dans un projet crypto, peut-être plus rapidement que quand une entreprise se lance en bourse, par exemple, et que des traders vont aller spéculer sur des actions. Et donc je pense que ces communautés, elles sont importantes aussi parce qu'elles permettent de se partager de la connaissance, de partager des infos sur les projets, d'aller donner des idées aussi aux gens qui lancent des projets. Donc c'est une manière d'étendre la compétence et les connaissances dans le milieu crypto. Donc c'est assez positif, même si c'est vrai que le côté communautaire lui est parfois reproché. Hein. Certains vont dire que la crypto, c'est une secte. En fait, pas du tout. Et la plupart des gens qui viennent trouvent des communautés assez ouvertes. Ouais.
D'accord. Owen, quelles sont les limites de ces communautés? Est-ce toujours bénéfique de raisonner en termes de communauté?
Alors, à partir du moment où une communauté est composée de différents êtres humains, c'est pas toujours bénéfique. Il y a évidemment des limites, notamment parce que à partir du moment où une initiative peut être bienveillante et peut être construite avec l'ensemble d'une communauté, ça peut avoir un gros impact positif, mais également quand la communauté s'aligne pour faire des choses qui sont moins respectables, ça peut avoir un gros impact négatif. Ce qu'il faut comprendre, et c'est drôle parce que vous avez commencé par dire que dans le monde de l'affaire, dans le monde du marché action par exemple, on parle de traders, mais et pas de communauté. Souvenez-vous quand même de la petite communauté GameStop qui avait sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Reddit, été parier à la hausse du titre GameStop afin de faire beaucoup de mal à un géant du monde des fonds d'investissement qui avait, lui, parié à la baisse. C'était une communauté. Et pour le coup, sur le signal de base, sur la volonté de protéger GameStop et d'envoyer un signal plutôt bienveillant. Là où on peut voir les limites de cette communauté, c'est qu'ensuite, ça naturellement, il y a eu beaucoup de suites sur cette affaire. Le Robinhood, une application qui permettait d'acheter et de vendre des actions, a suspendu la cotation et a empêché certains acteurs d'acheter. Donc les gens pouvaient vendre mais ne pouvaient pas acheter du coup leurs actions, et à ce moment la communauté a parfois été trop loin, parce que communauté dans le monde de la crypto-monnaie, dans des actions, c'est communauté avec une capacité de nuisance mais également des fois une capacité bienveillante et une capacité financière. On a été jusqu'à avoir certains membres de la communauté qui ont payé des avions pour passer autour des bureaux de Robinhood avec une banderole pour insulter tout simplement la gestion de l'entreprise et le fait que la communauté ne doit jamais être censurée et qu'elle n'avait pas pu acheter et vendre comme elle voulait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la communauté, c'est quelque chose de très fort, surtout dans un monde des intermédiaires où les particuliers échangent avec des particuliers, mais comme à chaque fois, avec des hommes, on peut construire des murs et on peut monter des armées, mais on peut également faire des choses horribles, et c'est toujours ça, la limite de la communauté, ce que les gens en feront.
Vincent Gann, vous faites partie d'une communauté?
Oui, il y a de nombreuses communautés. Non, mais c'est
la communauté BFM Business.
Et tout à fait, moi je vois, enfin, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Les traders privés sont exclus de la haute finance. Il y a deux mondes, hein, les traders professionnels et les traders privés. L'écart en termes de puissance d'impact est énorme. Le fait qu'il y ait des communautés de traders privés, ça permet un peu d'équilibrer les choses. Hein, donc c'est positif.
On continue ces pros des cryptos avec cet autre sujet concernant l'exchange FTX qui continue son expansion et embauche de nouvelles personnes au sein de ses équipes, un chef des partenariats avec des marques de luxe. Owen, quelles sont les potentielles applications de cette branche de luxe que FTX pourrait prendre?
Alors, je pense qu'on peut regarder tout ce que la blockchain peut faire dans le monde du luxe. Déjà, la traçabilité, hein, être sûr que ce que l'on achète est bien authentique, notamment à travers, par exemple, des NFT qui permettraient d'être certain que l'on achète bien un sac, par exemple, de première main, d'une marque de qualité et non pas simplement une contrefaçon. Mais quand on dézoome un petit peu, on voit tellement d'usages à la blockchain dans le marché du luxe qu'on a envie de se demander finalement quel est l'intérêt pour FTX de nouer et d'investir dans ce genre de marché. Déjà, ça correspond au positionnement de la marque et au marché qu'elle veut adresser. Généralement, les marques de luxe s'adressent du coup à un public assez large, plus ou moins prestigieux et qui ressemble aux personas que les plateformes d'exchange vont cibler pour acheter, détenir de la crypto-monnaie. Et finalement, quand on a une certaine fortune à investir dans le luxe, on cherche peut-être également à diversifier ses richesses et donc à s'intéresser à l'écosystème de la crypto-monnaie. Après, on peut imaginer encore plus d'usages et aller plus loin dans la réflexion, même si ce n'est que spéculation. Alameda Research, donc la holding qui détient et qui a fondé FTX, est également un investisseur majeur qui développe et qui soutient la blockchain Solana. Une blockchain qui, elle-même, aurait probablement pour but de générer un certain nombre de transactions et d'un jour être, pourquoi pas, la blockchain sur laquelle se basent différents types de projets pour aller chercher de la traçabilité, de l'authenticité et utiliser différents outils blockchain afin de certifier les différents produits d'industrie du luxe que l'on va chercher. Donc, il y a à la fois pour moi une segmentation client. Ça intéresse FTX de se positionner et de faire du marketing en ce moment. Et on l'a bien vu avec les publicités qui coûtent des millions d'euros au Super Bowl, mais également cette déclinaison qui a été de commencer à faire des vrais usages avec des vraies marques dans le luxe afin de pouvoir travailler sur la blockchain et pourquoi pas défendre leur poulain, la blockchain Solana.
Claire Balva, vous avez des exemples de marques de luxe qui sont déjà rapprochées du secteur des cryptos?
Oui. Alors, toutes les entreprises du monde du luxe en ce moment sont effectivement en train de regarder le secteur de la crypto. Nous, on le voit même chez KPMG, on est contacté régulièrement par des entreprises du secteur du luxe, notamment sur le sujet des NFT, vous savez, ces tokens non fongibles qui font fureur en ce moment. Et donc, toutes ces entreprises-là sont en train de mener des réflexions stratégiques et de se positionner sur ce secteur-là. On a vu par exemple L'Oréal qui a fait une annonce cette semaine, pas vraiment une annonce, mais qui a enregistré plus d'une dizaine de marques à l'Office de la propriété intellectuelle au niveau mondial sur le sujet NFT et métaverse. On a vu aussi Hublot, vous savez, l'horloger qui allié avec avec Ledger pour sortir en même temps des produits brandés de la même manière. Donc effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui du secteur du luxe ont intérêt à aller sur la crypto, que ça soit pour des sujets de éventuellement d'optimisation technique en interne, mais surtout pour des questions stratégiques.
C'est pas un peu gadget, c'est vraiment ça compte vraiment, ça peut vraiment compter dans une stratégie. C'est une stratégie de communication finalement.
C'est une stratégie d'acquisition client en fait aujourd'hui. Ouais. Si vous vous dites il y a
de communauté de clients.
Mais bien sûr, puisque 8% des Français ont de la crypto-monnaie aujourd'hui, on l'a vu dans une étude qu'on a sortie récemment.
En moyenne, ils ont combien alors?
Alors, les trois quarts d'entre eux ont investi moins de 10%.
J'ouvre une parenthèse.
Les trois quarts d'entre eux ont investi moins de 10% de leur épargne. Mais forcément, dans ces 8% de Français, il y a aussi des gens qui étaient là tôt et qui potentiellement se sont fait beaucoup d'argent. Donc, c'est une communauté qui peut être prête à investir aussi dans le monde du luxe. Donc, c'est des clients potentiels. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des outils qui peuvent être là pour fidéliser aussi les clients. On voit plein de marques de luxe qui repensent un peu leur technique de fidélisation avec des NFT, en créant des produits augmentés, en allant pourquoi pas dans le métaverse pour proposer des produits dans le monde virtuel. Donc c'est évidemment une stratégie marketing, une stratégie de communication, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Au contraire, c'est intéressant pour ces marques-là de s'adapter aussi à leur nouvelle clientèle.
Mm-hmm. Vincent, vous avez une remarque particulière sur ce point ou sur...
Oui, mais il faut bien avoir conscience qu'il y a des millions et des millions et des millions de consommateurs qui sont passionnés par collectionner des actifs numériques. On sous-estime ça. Et donc, je suis pas surpris qu'une industrie comme le luxe, qui a fait sa fortune dans le réel, dans le concret, se dise qu'elle passe à côté de consommateurs potentiels. Moi, je vois vraiment les choses comme ça.
Il nous reste quelques minutes. Claire Balva, quel est le prochain sujet dont vous allez nous parler dans les pros des cryptos? À quoi, d'après vous, le sujet du moment dans le monde des cryptos là, dont vous aimeriez parler? Quel est-il? Teaser un petit peu votre prochaine intervention.
Moi, ce que je trouve vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'on a enfin des chiffres justement sur la crypto en France, que ce soit la crypto au niveau de l'industrie et des acteurs crypto, de ce dont ils ont besoin pour se développer, mais aussi au niveau des particuliers. du pourcentage de Français qui détiennent des crypto-monnaies, de combien ils ont mis, de quel est le profil de ces investisseurs-là. Mmh. Ils sont plutôt jeunes, effectivement, quasiment la moitié à moins de 35 ans. D'accord. Alors que les moins de 35 ans ne représentent que 25% de la population. Mmh. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que ça devient un sujet de société, un sujet politique aussi. Et donc voilà, c'est intéressant de voir les candidats à la présidentielle se positionner sur ce sujet aussi. Il y a un certain nombre de candidats qui sont allés voir l'entreprise Ledger, par exemple, récemment.
Qui, par exemple?
Alors, il y a plusieurs candidats qui se sont positionnés. Je crois que Cédric O, par exemple, va y aller. Éric Zemmour y est allé aussi. Oui. Jean-Luc Mélenchon va y aller. Donc, il y a plusieurs candidats, effectivement, qui y sont allés ou qui vont y aller. Enfin, en tout cas, qui vont y aller.
Parmi ceux qui sont de premier plan. Owen Simonin, qu'est-ce que vous suivez, vous, en termes de tendance, là?
Alors, globalement, il y a plusieurs choses. Dans l'écosystème français, on attend cette prise de position politique. C'est un sujet qui est trop important d'un point de vue économique pour que ce ne soit pas au programme de tous les candidats. Évidemment, c'est un avis qui m'est personnel. Il y a déjà des gens qui se sont prononcés il y a plus ou moins longtemps, 2016, 2018 et 2022 dans le monde de la crypto-monnaie. Souvent, ce sont des petites allusions, mais il n'y a pas de prise précise de position, alors qu'il faut qu'il y ait des points dans les programmes qui abordent ce sujet. Pardon ?
Parce que c'est mal connu, c'est encore mal connu. Ou peut-être que les gens même qui investissent ne savent pas exactement dans quoi ils investissent.
Vous savez, c'est encore question mal d'éducation, connu, mais quand on sait qu'il y a... C'est peut-être mal connu, mais quand on sait qu'il y a plus de gens qui détiennent des crypto-monnaies en direct que d'actions en bourse, il s'agirait peut-être de définir un cadre afin de permettre ou non aux gens d'accéder intelligemment à ces actifs. Donc c'est la régulation et donc la politique qui doit être capable de prioriser certains sujets. Évidemment, je parle en économie, hein, y a plein d'autres problématiques bien plus graves et on le voit en ce moment, mais d'un point de vue économique, si on ne prend pas position avant ce mandat, autant vous dire qu'en 2027, pour le prochain mandat, il sera bien trop tard pour rêver de la blockchain nation qu'on nous a promis il y a déjà
de
ça 4 ans.
On nous a promis ça, d'accord. Vincent Gann, quelques secondes pour conclure. Vous avez le mot de la fin.
Moi, je trouve sur ce sujet politique, on revient juste 2-3 années en arrière, même avant, il y avait encore sur la table le sujet de l'interdiction des cryptos, le rejet en fait des cryptos dans l'économie, dans la sphère financière ou financière. Lorsqu'on voit les grands partis politiques maintenant qui s'emparent du sujet, je pense que c'est ce risque-là qui est désormais écarté.
Vincent Gann, Claire Balva, Owen Simonin, merci à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau numéro des pros des cryptos tous les vendredis à 16h30 dans BFM Bourse, bientôt 17h sur BFM Business. On fait une toute petite pause et on se retrouve pour la troisième et dernière heure de cette émission BFM Bourse, celle qui va nous mener à la clôture de cette dernière séance de la semaine. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.